L'affaire Dreyfus, une soirée de trahison. Vraiment, s'écria le conseiller Barre en se levant de table lourdement, on ne dîne bien qu'ici. C'est épatant. Et quelle argenterie! Avec une adresse que l'habitude du cambriolage judiciaire et autres rendait merveilleusement prestidigitatrice, il subtilisa un couvert de vermeil et deux aiguières d'argent ciselées qu'il mit dans sa poche. « La vie est belle, » fit-il d'une voix dont je ne pus m'empêcher d'admirer le cynisme véritablement supérieur. Et, sentencieux mais toujours sympathique, je crus devoir exprimer « Il est vrai que tu as une façon de l'embellir qui pourrait te mener loin. » À quoi mon ami répliqua « Autrefois, c'était les journalistes qui avaient la spécialité de rafler les couverts dans les maisons où ils allaient dîner. Aujourd'hui, ce sont les magistrats. Les mœurs ne changent pas. Elles se déplacent. Voilà tout. La vie est belle. » Puis, s'étayant sur mon bras, car ses jambes étaient molles et mal assurées, il me conduisit dans le salon où déjà la maîtresse de maison, la délicieuse princesse espionne, offrait le café à ses hôtes. Love y était déjà, et aussi Dumas et Attalin pareillement. Leur tenue était indiciblement répugnante, et comme dit M. Rochefort, d'une outrageante obscénité. Tous les trois, figure luisante, ventre réjoui, ils se vautraient, parmi les femmes, sur les coussins d'un large divan, et ils répétaient, d'une voix exagérément avinée et turpide, en branlant la tête, selon des rythmes d'ivrogne, « La vie est belle, la vie est belle !»« Nom de Dieu !» jura Barre. « Je le crois que la vie est belle. Ah, je me félicite, je me congratule tous les jours d'être entré dans la magistrature de Dupuis et de m'être fait conseiller à la cour de cassation de Lebré. Il n'y a plus que là qu'on s'est rigolé. Il n'y a plus que là que la vieille gaieté française. Ah ah ah, ohé, ohé !» S'interrompant brusquement et promenant dans le salon son fameux et criminel regard d'inquisiteur, il demanda « Mais où est Chambarreau ? Je ne vois plus Chambarreau. Où est-il, ce vieux Zig ?» Tous, nous le cherchions des yeux. Vainement, Chambarreau avait disparu. Et Barre commençait à s'impatienter lorsque la délicieuse princesse espionne, avec un sourire discret, ironique et charmant, nous dit « Rassurez-vous, Monsieur Chambarreau n'est pas loin. Il est au cabinet. Il croit toujours rencontrer Picard. C'est une manie. »« Ce sacré Chambarreau !» s'esclaffa le joyeux conseiller en faisant une pirouette élégante. « Allons, la vie est belle !» Il alluma un gros cigare, m'entraîna dans un coin du salon, et là, devenant grave, tout d'un coup, il parla ainsi. « Mon vieil ami, je crie à tue-tête que la vie est belle. Eh bien non, elle n'est pas belle. Du moins, elle ne l'est plus. Et il faut que tu saches pourquoi. Figure-toi que, hier encore, je dînais chez Munster. Il y avait là Schwarzkoppen, Renac, Sébastien Faure, Casimir Perrier, Clémenceau et quelques autres traîtres d'importance. Le dîner fut très mauvais. Moi, du reste, par une anomalie mystérieuse, je ne digère pas la cuisine allemande. Je ne digère que l'or allemand. Par exemple, je le digère bien. À un moment donné, Munster, qui avait eu avec Clémenceau une conversation fort animée, me prit à part et, sans transition, « Combien la champagne ?» me dit-il. « J'ai besoin de la champagne dans 8 jours. »« Voyons, combien ? Le dernier prix ?»« Ma foi, répondis-je, vous me prenez de court. Je n'ai pas fait les comptes, mais à vue de nez, et l'un dans l'autre, je pense que 3 millions, c'est pour rien. » Munster hurla. « 3 millions ? Est-ce que vous êtes fou ? Mais Clémenceau, qui n'est pas donnant, me la donne pour 800 000 francs. » J'expliquai avec des gestes acrimonieux. Clémenceau n'est pas un patriote. Il vend sa patrie au rabais. Il gâte les prix. Ce n'est pas bien. Et j'ajoutai, sarcastique, « D'ailleurs, il peut vous vendre la champagne 800 000 francs. il n'y perd pas, puisqu'il l'a déjà vendu, il y a beau temps, aux Anglais. » Munster parut déconcerté. « Comment, aux Anglais ? » fit-il. « Quelle est cette blague ? Et Norton ? Vous ne vous souvenez donc de rien, triple ambassadeur que vous êtes ?» Munster réfléchit durant quelques minutes, puis soudain, emporté par une grande colère, « Ah, vous êtes tous des crapules » vociféra-t-il. « Des stellionataires ! Comment ? Vous avez le toupet de me vendre des patries que vous avez déjà vendues à d'autres ? Mais c'est une honte, une infamie ! Esterhazy, lui, me vendit la France loyalement. C'était un honnête homme, lui. Vive l'armée ! » J'essayais de le calmer. Il ne voulut rien entendre. « Non, non !» répétait-il. « Tout est rompu entre nous. Vous n'êtes que des crapules. Voilà l'histoire. Qu'en penses-tu ? S'il n'y a plus l'Allemagne, il y a l'Angleterre, insinuai-je avec un accent méphistophélique. J'y avais d'abord songé, mais Clémenceau lui a déjà tout vendu. Il y eut un silence plein d'angoisse tragique. « Alors ? » dis-je. « Alors, nous sommes fichus, » répondit Barre, qui ralluma son cigare à la flamme d'une bougie rose. À ce moment précis, Chambarot rentrait dans le salon. Il était très pâle et chancelant. À grand-peine, il gagna un fauteuil dans lequel il s'effondra comme un paquet. De toutes parts, on lui cria « Qu'y a-t-il ? Que vous est-il arrivé ?» Et Chambarot, d'une voix faible, tremblante, gémit « J'étais allé au cabinet, il y avait quelqu'un. Naturellement, je crus que c'était Picard. J'avais emporté des dossiers, des pièces secrètes. « Mon cher Picard, dis-je à quelqu'un qui était là, en voici encore, en voici toujours. » Et je bourrais ses poches de ses dossiers, de ses pièces secrètes. Alors, une voix glapissante se fit entendre. Ce n'était pas la voix de Picard, c'était « Parlez, parlez !» criâmes-nous, étranglés par une peur horrible. Chambarot fit un suprême effort et il dit dans un râle « C'était la voix de Quesnay !» Et il s'évanouit. L'Aurore, 9 février 1899.